Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Baba Metzia, page 74, Daf Ayin Dalet. Bonne écoute et bon limoud.
Haha, mais ici dans le cas de l'émissaire qui s'est engagé à acheter du vin pour son envoyeur, l'Aveado, ce n'est pas entre ses mains de décider s'il arrivera à obtenir ce vin ou non. Et cela parce qu'il y a toujours la possibilité, même lointaine, que les producteurs de vin ne soient pas d'accord de lui vendre ce vin au prix où ils le voulaient, comme l'explique le Tosfot. Par conséquent, cet engagement de dédommager l'envoyeur n'est pas valable parce que celui-ci est considéré comme n'étant pas sincère, parce que lorsqu'il l'a pris, il était sûr de pouvoir tenir sa promesse, donc d'obtenir ce vin, alors que ce n'était même pas entre ses mains, et parce que ce n'est même pas sûr qu'il aurait pu l'obtenir. Nous avons fini ici le shiur de Baba Metzia Daf Ayin Gimel. Nous commençons le shiur de Baba Metzia Daf Ayin Dalet en haut de la page. Puisque la Gemara a enseigné précédemment une loi concernant un émissaire qui a accepté la mission d'acheter du vin pour son envoyeur et ne l'a pas fait, la Gemara va citer une autre loi concernant un émissaire qui accepte la mission d'acheter quelque chose pour son envoyeur. Amar Rava, Hane Bet Lata Diahave Zuzel Echad, Lemizban Lehumide, ces trois personnes qui ont donné de l'argent à une personne, donc à un émissaire, pour leur acheter quelque chose, Vezavan Lechad Minayu, et il a acheté cet objet en ayant l'intention de l'acquérir pour l'un de ces trois envoyeurs. Zavan Lekulhu, nous dirons qu'il a acheté cette chose pour tous les trois envoyeurs. Celui-ci donc appartient à tous ces trois et ils devront le partager. Velo Amaran est là, nous ne disons cela uniquement que dans le cas où de l'Otsar Vechatim Inish Lehude. L'argent appartenant à chacun de ces trois envoyeurs n'était pas enfermé dans une bourse séparée. Soit parce que ces trois envoyeurs ont mélangé cet argent dès le départ, finalement donc il est impossible de déterminer à qui appartient chaque pièce d'argent, ou bien même s'ils l'ont donné séparément, mais l'émissaire a mélangé cet argent appartenant à ces trois envoyeurs. Finalement donc, il est impossible de déterminer quelle pièce de monnaie appartient à qui. Par conséquent, en partant du principe enseigné par le Roche plus haut, Siman Mem Aleph, que lorsqu'un émissaire achète un objet avec de l'argent appartenant à son envoyeur, le vendeur a l'intention de le vendre au propriétaire de l'argent. Par conséquent, même si l'émissaire pensait l'acquérir pour lui-même, il l'aura acquis pour son envoyeur. Alors là aussi, puisque cet argent s'est mélangé, nous pouvons donc considérer que les trois envoyeurs sont devenus associés pour cette somme d'argent. Nous considérons donc que le vendeur qui a vendu cet objet l'a vendu au propriétaire de cet argent, donc aux trois envoyeurs. L'émissaire n'a pas la possibilité de décider que cet objet ne serait acquis qu'à un seul de ses envoyeurs. Aval tsar vechatim inish lehude. Mais si l'argent appartenant à chacun de ses envoyeurs était enfermé séparément dans une bourse, c'est ainsi donc que l'émissaire a reçu cet argent et il ne l'a pas mélangé. Le man des avan zavan, la personne pour laquelle l'émissaire a acquis cet objet, l'aura acquis. Ou le man de l'ozavan, l'ozavan. Mais pour la personne pour laquelle l'émissaire n'a pas acquis l'objet, celui-ci ne l'aura pas acquis. Parce que finalement, l'émissaire a acquis cet objet avec l'argent appartenant à l'un seul de ses envoyeurs. Cet objet lui sera donc acquis pour les raisons que nous avons expliquées. Pour plus de détails, voir le tour et le Shulchan Aruch dans Choshen Mishpat Siman Kufayin Dalet. Amar Rav Papi Mishmeh de Rava, Hay Situmta Kanya. Le fait de marquer les fûts de vin est considéré comme un acte d'acquisition. C'est-à-dire à l'époque, les détaillants qui vendaient du vin au détail allaient chez le producteur et apposaient leur sceau sur le nombre de fûts de vin qu'ils avaient l'intention d'acheter. Ils le laissaient ensuite chez lui et se servaient petit à petit tout au long de l'année. Alors Rav Papi dit au nom de Rava que le fait d'avoir apposé ce sceau sur le fût de vin est considéré comme un acte d'acquisition. Alors la Gemara demande le Maïl Cheta, qu'est-ce qui ressort de là? En d'autres termes, quelle est la force de cet acte d'acquisition? Est-ce qu'il s'agit d'un véritable acte d'acquisition ou bien le fait d'apposer le sceau sur le fût de vin n'est qu'une expression d'un engagement formel qu'il est interdit d'annuler, mais il ne s'agit pas vraiment d'un acte d'acquisition? Alors, Rav Chaviva Amar le Mikneya Mamash, Rav Chaviva dit que le fait d'apposer le seau sur un fût de vin est un véritable acte d'acquisition, comme s'il l'avait tiré vers lui. Par conséquent, plus personne ne peut changer d'avis ni annuler ce marché. Rabbanan Amré, les Kiboulé Aleh Mishepara. Il s'agit uniquement d'une expression d'un engagement formel, à la suite duquel celui qui annule cet engagement devra accepter la malédiction enseignée au début du 4e Pérec. Mais il ne s'agit pas d'un véritable acte d'acquisition. Par conséquent donc, en acceptant cette malédiction, il est possible d'annuler ce marché. Veil Cheta, la Gemara conclut que la halakha est le kiboulé aleh mishepara. Le fait d'apposer un seau sur un puits de vin n'est pas considéré comme un acte d'acquisition véritable, mais plutôt d'une expression d'un engagement formel, à la suite duquel celui qui l'annule devra accepter la malédiction qui a été enseignée au début du 4e Pérec. Ou Beatra de Nehigou le Mikne Mamash, mais dans un endroit où l'usage est de considérer la position d'un seau sur un puits de vin comme un véritable acte d'acquisition, Kanou, le fait d'avoir apposé un seau sur un fût de vin sera considéré comme un véritable acte d'acquisition, comme si l'acheteur l'avait tiré vers soi. Et cela parce que les Chachamim ont institué de considérer comme acte d'acquisition toute action considérée par les gens de cet endroit comme telle. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Hayahu trila le kotsri » Si le vendeur faisait partie des premiers moissonneurs, il sera permis de conclure avec lui une transaction d'acheter du blé, même si celui-ci ne possède qu'une meule de blé non battue. C'est-à-dire, même si le produit que le vendeur possède n'est pas entièrement fini, cela est suffisant pour considérer qu'il possède ce produit, et il pourra donc conclure une transaction à n'importe quel prix. En là-dessus, la Gemara dit, « Amar Rav, Mechusar Shtaim, si au produit que possède le vendeur, il manque deux étapes pour arriver à la fin de la production, Posek, il sera permis de conclure avec lui une transaction à n'importe quel prix, puisque le produit qu'il possède est presque fini. Shalosh, mais si au produit que le vendeur possède, il manque trois étapes, et no posek, il sera interdit de conclure avec lui une transaction. Parce que nous considérons que le produit qu'il possède est trop loin de la fin de la production, nous considérons donc que le vendeur ne possède pas ce produit, il sera donc interdit de conclure avec lui une transaction sur la vente de cet objet. Ou Shmuel Amar, et Shmuel quant à lui dit, Bide Adam, si les étapes manquantes au produit que possède le vendeur sont des étapes qui peuvent être accomplies par un homme, Afilumea, même si au produit que possède le vendeur il manque 100 étapes, possède qu'il sera permis de conclure avec lui cette transaction. Puisque finalement, c'est entre ses mains de terminer cette production et de fournir l'objet fini à l'acheteur. Bide Shamaim, mais si l'étape manquante au produit que possède le vendeur est une étape qui ne peut pas être accomplie par un homme, mais par le ciel, par exemple, s'il s'agit de fruits qui doivent encore mûrir, à Filo Achat, même s'il ne manque qu'une seule étape pour terminer la production de cet objet, Eno Posek, il sera interdit de conclure une transaction avec le vendeur. Et cela parce que qui me dit que cette étape sera complétée pour pouvoir fournir l'objet à l'acheteur? Finalement donc, nous considérons que le vendeur ne possède pas cet objet. Il sera donc interdit de s'appuyer sur celui-ci pour conclure une transaction. Alors, la Gemara va maintenant amener plusieurs passages de notre Mishnah pour les opposer selon le cas à l'opinion de Rav ou à celle de Shmuel. Otnan, il a été enseigné dans notre Mishnah. Posekimo al Hagadish, il est permis de conclure une transaction de vente de blé si le vendeur possède une meule de blé non battue. Alors la question se pose sur l'opinion de Rav, Beha Mechusar, pourtant, au produit fini qui est le grain de blé, il manque les étapes suivantes, Mishda Bachama, le fait d'étaler les gerbes de blé au soleil pendant tout l'été, le Mibash, et en plus il manque l'étape que ces gerbes de blé doivent sécher. Puis il manque la troisième étape ou le midash de battre le blé, ou midra, et il manque aussi la quatrième étape de vanner ce blé. Il manque donc quatre étapes à la production de ce blé. Comment se fait-il qu'il soit permis de conclure une transaction de vente de blé à ce stade? L'agma répond, Tugon de Shada Bechama Beyavash, il s'agit d'un cas où ce vendeur possède une meule de blé non battue, mais après que celui-ci a été étalé au soleil et qu'il a séché. Finalement donc, il manque uniquement deux étapes pour le produit fini, c'est le fait de battre le blé et de le vanner. Il sera donc permis, selon Rav, de conclure une transaction avec le vendeur à ce stade. La Gemara demande où le Shmuel est selon l'opinion de Shmuel d'Amar Bidei Shamaim, si l'étape manquante au produit fini est une étape qui ne peut pas se faire par l'homme, mais uniquement par le ciel, à Filo Achat et Noposek, même s'il manque qu'une seule étape à ce produit, il est interdit de conclure une transaction avec le vendeur. Veha Mechusar Midra. Pourtant, il manque ici le fait de vaner ce blé, Debide Shamaim Hi, qui ne peut se faire que par l'aide du ciel. C'est-à-dire, pour vaner le blé, il faut attendre un jour où il y a beaucoup de vent, ce qui n'est pas entre les mains du vendeur. Puisque c'est ainsi, même s'il manque uniquement l'étape de vaner le blé, il devrait être interdit de conclure une transaction de vente de blé avec le vendeur, selon l'opinion de Shmuel, même s'il manque uniquement cette étape. La Gemara répond, même cette étape peut être faite aussi par l'homme. Efshar benaf vata. En effet, il est possible de vaner le blé avec le moyen d'éventail. Par conséquent, selon l'opinion de Shmuel, comme l'explique le Tosfot Arosh qui est ramené aussi dans le Shita Mekoubetset, il sera permis de conclure une transaction de vente de blé, même si le vendeur n'a même pas encore moissonné son blé, à partir du moment où le blé est suffisamment mûr pour ne pas avoir besoin d'être attaché à la terre. Cependant, la Mishnah parle de meules de blé non battu, parce que si elle parlait de blé avant la moisson, elle aurait dû aussi préciser que celui-ci doit être mûr. Mais à partir de la moisson, toutes les étapes suivantes, même celles où le blé doit sécher, est considérée comme une étape suffisamment sûre parce qu'elle ne nécessite pas d'intervention particulière. En effet, le blé séchera tout seul. Par conséquent, selon Shmuel, il est permis de conclure une transaction même avant que le blé ne sèche. La Gemara reprend un autre passage de la Mishnah pour questionner l'opinion de Rav. La Mishnah dit, « Da'al ha'avit shenanavim, il est permis de conclure une vente de vin. » Lorsque le vendeur possède des raisins qui sont entreposés dans un grand ustensile où on les laisse fermenter un petit peu avant leur pression. Alors la Gemara demande comment se fait-il que selon l'opinion de Rav, il soit permis de conclure une vente de vin alors que le vendeur possède des raisins avant leur fermentation. Veham Khoussar, pourtant, il manque les quatre étapes suivantes. Mihmar, la fermentation des raisins. Veiyule, le Bema Sarta, et les amener au pressoir. Le Midash et la pression des raisins. Ou le mingad et le soutirage. La Gemara répond, Kedetane Rabbi Chia, de la même manière que Rabbi Chia a corrigé la Mishnah, comme nous le verrons par la suite, en disant à la commerce chez les Zétim, il faut que le vendeur possède des olives déjà fermentées dans un ustensile pour conclure une vente d'huile. Hachanami, ici aussi nous corrigerons la Mishnah et nous lirons à la commerce chez l'Anavim, la vente de vin pourra être conclue uniquement lorsque le vendeur possède un récipient rempli de raisins fermentés. Cependant, comme le précise le Tosfot, souvent la fermentation des raisins n'est pas nécessaire pour la fabrication du vin. C'est pour cela d'ailleurs que Rabbi Chia a corrigé la Mishnah uniquement pour les olives et non pas pour les raisins. Cependant, là où la fermentation des raisins est nécessaire, il faudra impérativement que le vendeur possède des raisins fermentés pour conclure une vente de vin. La Gemara demande, même si le vendeur possède déjà des raisins fermentés, veham chusretlat, il manque pourtant encore trois étapes. C'est amener les raisins au pressoir, les presser et soutirer le vin. La Gemara répond, Beatra de haou de zavin hou de nagid. Il s'agit ici d'un endroit où celui qui achète le vin, c'était lui qui le soutirait. Par conséquent, il manque uniquement deux étapes à la production de ce vin. Il sera donc permis, dès lors que le vendeur possède des raisins fermentés, de conclure une vente de vin. De cette partie de la Mishnah, nous n'avons pas eu de questions sur l'opinion de Shmuel, parce que comme l'explique le Tosfot Arosh que nous avons mentionné précédemment, selon Shmuel, il sera permis même de conclure une vente de vin avant les vendanges, si les raisins sont suffisamment mûrs pour ne plus avoir besoin de la terre. Cependant, puisque la Mishnah n'a pas voulu le préciser, c'est pour cela qu'elle a choisi de parler du stade après les vendanges. La Gemara reprend à nouveau un passage de la Mishnah pour questionner l'opinion de Rav. La Mishnah dit, Ba'al ha'matan shel zetim, il sera permis de conclure une vente d'huile lorsque le vendeur possède un récipient rempli de raisins, avant leur pression. La Gemara demande, Ve'ha mechusar, pourtant il manque quatre étapes pour la production de l'huile. En effet, il manque mihmar, la fermentation des olives avant leur pression, ve'iyule les bedapé, et les amener au pressoir des olives. Le midash et la pression des olives, ou le mingad et le soutirage de l'huile. Comment se fait-il donc que la Mishnah nous enseigne qu'il est permis de conclure une vente d'huile lorsque le vendeur possède uniquement des olives avant leur fermentation? La Gemara répond, Tanei Rabbi Chia, Rabbi Chia a enseigné pour corriger la Mishnah al komer shel zetim. Il sera permis de conclure une vente d'huile lorsque le vendeur possède des olives fermentées dans un récipient. Alors la Gemara demande haika tlat. Pourtant, il manque encore trois étapes pour la production d'huile. En effet, il faut encore amener les olives au pressoir, les presser et soutirer l'huile. La Gemara répond Beatra dehahuz dezavin. Il faut lire ici selon le bar hu de nagid. Il s'agit ici d'un endroit où celui qui achète l'huile, c'était lui qui le soutirait. Finalement donc, il manque uniquement deux étapes pour la production de cette huile, et c'est pour cela donc qu'il sera permis de conclure une vente d'huile lorsque le vendeur possède déjà les olives fermentées. Comme nous l'avons expliqué précédemment, ici aussi, selon l'opinion de Shmuel, il sera permis de conclure une vente d'huile même avant la cueillette des olives, si elles sont déjà assez mûres pour ne plus avoir besoin d'être rattachées à l'arbre. Cependant, la Mishnah n'a pas voulu rentrer dans les détails, comme l'explique le Tosfot Arosh que nous avons mentionné précédemment, et c'est pour cela que la Mishnah a choisi de parler des olives après leur cueillette. En fait, donc, selon Shmuel, il n'est pas nécessaire de corriger la Mishnah comme l'a fait Rabbi Chia. La Gemara reprend un autre passage de la Mishnah pour questionner à nouveau l'opinion de Rav. La Mishnah dit « Va'al ha-betzim shel yotzer » Il est permis de conclure une vente de casserole ou d'assiette avec un potier lorsque celui-ci possède des boules d'argile en forme d'œuf. Alors la Gemara demande à Maï, pourquoi est-il permis de conclure une vente avec le potier lorsqu'il possède uniquement des boules d'argile? Vehamukhusar, pourtant il manque encore cinq étapes pour la fabrication de ces casseroles ou de ces assiettes. En effet, il manque l'ifoufé, la formation de l'ustensile sur le tour du potier, vieille bouchée, et puis le séchage de cette argile, yulé le atuna, et le rentrer dans le four, le misraf et la cuisson de cette argile, ou le mipak, et de faire sortir les ustensiles du four. Il devrait donc être interdit de conclure une vente de poterie à ce stade. La Gemara répond que Gondemela Fefa Vivichou, il s'agit d'un cas où les pots ou les ustensiles ont déjà été formés et aussi ils les ont déjà séchés. En la Gemara demande Veha Ikatlat, pourtant il reste encore trois étapes pour la fabrication de ces ustensiles. Il manque le fait de les faire rentrer dans le four, la cuisson de l'argile et faire sortir les ustensiles du four. La Gemara répond Beatra Teahu Dezavin ou de Mapik. Il s'agit d'un endroit où l'usage était que c'est celui qui a acheté la poterie qui la faisait sortir du four. Il manque donc uniquement deux étapes pour la fabrication de cette poterie. Il sera donc permis de conclure une vente d'assiettes ou de casseroles à ce stade, lorsque ces casseroles ou ces assiettes ont déjà été formées et l'argile a déjà séché. La Mishnah désigne ces ustensiles par le terme de « betzim ». En fait, il faudra lire ici, selon Rav, « bitzim », dont la traduction est argile ou boue. En fait, donc, ce que la Mishnah veut dire, c'est qu'il sera permis de conclure une vente d'ustensiles avec le potier lorsqu'il possède l'argile séchée. En d'autres termes, lorsque les ustensiles ont déjà été formés et ils ont séché. Cependant, selon l'opinion de Shmuel, on comprendra la Mishnah telle qu'elle a été écrite, qu'il sera permis de conclure une vente de poterie avec le potier lorsqu'il possède des boules d'argile. Comme l'explique le Tosfot Arosh, avant ce stade, c'est-à-dire avant que la pâte d'argile a été fabriquée, il sera interdit, selon l'auteur de la Mishnah, de conclure une vente, parce que lorsque l'argile est encore à l'état de poudre, il est impossible de considérer que la fabrication de l'objet a déjà débuté. Par conséquent, donc, nous considérons que le vendeur ne possède encore rien. Il lui sera donc interdit de conclure une vente à ce stade. Nous verrons cependant par la suite un avis différent à ce sujet. La Gemara reprend un autre passage de la Mishnah pour questionner cette fois à la fois l'opinion de Rav et celle de Shmuel. La Mishnah dit « Ve'alassid mishéchak enu bekibshan » Il sera permis de conclure une vente de chaux lorsque le vendeur a enfourné les matières premières dans le fourneau pour la fabrication de cette chaux. Alors la Gemara demande sur l'opinion de Rav, comment se fait-il qu'à ce stade il soit permis de conclure une vente de chaux ?« Ve'ha mechoussar » Pourtant il manque encore trois étapes à la fabrication de cette chaux. En effet, il manque mikla, la cuisson de la pierre de calcaire, ve'afouke, et de faire sortir ces pierres du four après leur cuisson, ou midak, et le broyage des pierres de calcaire. L'agma répond, be'atra de'ahu de'zavin, ahudayik. Il s'agit d'un endroit où l'usage était que c'est celui qui achetait la chaux qui broyait les pierres de calcaire après leur cuisson. Finalement donc, il manque uniquement deux étapes pour la fabrication de cette chaux. Lorsque la matière première a été enfournée dans le four, il sera donc permis de conclure une vente de chaux à ce stade. La Gemara demande où le Shmuel est selon l'opinion de Shmuel d'Amar Bide Adam, lorsque les étapes manquantes peuvent être accomplies par l'homme, à fil ou mea, même s'il manque 100 étapes pour la fabrication de cet objet, posek, il est permis de conclure une vente à ce stade. Si c'est ainsi, l'amali miché shaken ou bekipshan, pourquoi est-ce que la vente de la chaux ne peut être conclue que lorsque la matière première a été enfournée dans le four? Même lorsque le vendeur possède cette matière première, il devrait être permis de conclure la vente de chaux. La Gemara répond, Emma, il faut corriger et comprendre ainsi la Mishnah, miché raoui le shako bekipshan, à partir du moment où le vendeur possède toute la matière première de manière à ce qu'ils peuvent être enfournés dans le four, il sera permis de conclure une vente de chaux. Il faudra donc que le vendeur possède à la fois les pierres de calcaire, le bois et tout le nécessaire pour la fabrication de cette chaux. Il lui manque juste de les enfourner et de procéder à la cuisson de la pierre de calcaire. Mais si le vendeur ne possède pas encore toute la matière première nécessaire à la fabrication de cette chaux, par exemple il ne possède pas encore le bois nécessaire à la cuisson de la pierre, il lui sera interdit de conclure une vente de chaux, parce que nous ne pouvons pas considérer que le vendeur la possède s'il lui manque ne serait-ce qu'une seule des matières premières. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Ve'al habetim shel yotzer » il est permis de conclure une vente de casserole ou d'assiette lorsque le potier possède des boules d'argile en forme d'œuf. Nous avons déjà expliqué ce passage selon les différents avis de Rav et de Shmuel. Selon Rav, en effet, il n'est permis de conclure cette vente uniquement lorsque le potier possède déjà des ustensiles formés et qui ont déjà séché. Selon Shmuel, il sera permis de conclure cette vente lorsque le potier possède des boules d'argile. Alors la Gemara dit là-dessus, « Tanu Rabbanan, nos chachamim ont enseigné dans une braïta, « En poskim al habetzim shel yoter » il est interdit de conclure une vente d'objets en argile lorsque le vendeur possède des boules d'argile, ad sheye asu, jusqu'à ce qu'il soit fait. Alors selon Rav, comme nous l'avons expliqué, c'est-à-dire jusqu'à ce que les ustensiles soient formés et qu'ils aient déjà séché, selon Shmuel, jusqu'à ce que la pâte d'argile soit formée. Dibre Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Amma Rabbi aussi, dit là-dessus, Bam Edvarim Amurim, quand ces choses sont dites, que le vendeur doit au moins posséder la pâte, Be'afar Lavan, c'est lorsqu'il s'agit d'ustensiles fabriqués avec de la poudre blanche, en d'autres termes, avec de l'argile blanche, qui donne donc de la faïence fine. Aval Be'afar Shachor, mais lorsqu'il s'agit de poudre noire, donc d'argile noire, que Gon Kfar Hananya Vechavrotea, par exemple dans le village appelé Kfar Hananya et ses alentours, ou bien Kfar Shichin Vechavrotea, ou bien dans le village appelé Kfar Shichin et ses alentours, dans ce cas, Poskin, il sera permis de conclure une vente d'ustensiles en argile, même si le potier ne possède rien du tout. Parce que Afalpi Shein Lezé, même si ce potier ne possède même pas la poudre d'argile, Yesh Lezé, un autre en possède, il est donc facile de l'obtenir. Donc dans ces endroits, cette argile est considérée comme le fumier, dont la Mishnah parle plus loin, qui s'obtient très facilement. Là aussi, la Mishnah nous enseigne qu'il est permis de conclure une vente de fumier, même si le vendeur n'en possède pas. Alors la Gemara raconte maintenant, Amimar Yahiv Zuzé, Amimar se permettait de conclure un achat d'ustensiles en argile, en payant sa marchandise à l'avance, Mechi Me'aile Afra, uniquement lorsque le potier avait acquis de la poudre d'argile. Alors la Gemara demande Keman, selon lequel des avis se conduisait à Mema, Ik Rabbi Meir, s'il voulait suivre l'avis de Rabbi Meir. Et c'est pour cela donc qu'il ne voulait pas conclure d'achat avant que le potier ne possède de la terre, Ha'amar Acheasu. Pourtant, Rabbi Meir dit qu'il est interdit de conclure une vente ou un achat d'ustensiles en argile avant qu'il soit fait. Donc, comme nous l'avons expliqué, même s'il voulait suivre l'opinion de Shmuel, il aurait dû attendre au moins que la pâte d'argile soit faite. Donc, pourquoi se permettait-il de conclure cet achat d'ustensiles en argile dès que le potier possédait de la poudre d'argile? Ik Rabbi Yossi, si Amimar voulait suivre l'opinion de Rabbi Yossi. Ha'amar, pourtant, Rabbi Yossi dit, Afalpi Shein Lezé Yesh Lezé, même si ce potier ne possède rien, d'autres potiers en possèdent. En d'autres termes, Rabbi aussi permettait de conclure un achat d'ustensiles en argile, même lorsque le potier ne possédait rien. La Gemara répond, le Olam qui Rabbi aussi. Toujours pourrais-je te dire qu'Amimar voulait suivre l'opinion de Rabbi aussi. Ou Béatré de Amimar, est dans l'endroit où habitait Amimar, à Shikafra, la poudre d'argile était chère et difficile à obtenir. Par conséquent, Idemaïla Afra, Lorsque le potier avait acquis de la poudre d'argile, Samchadate, Amimar lui faisait confiance qu'il lui produirait des ustensiles en argile, Veyahiv le Huzuzé, et il se permettait donc de payer sa marchandise à l'avance. Et cela parce que dès lors qu'il pouvait leur faire confiance, cet accord pouvait être pris au sérieux, et lorsqu'il payait sa marchandise à l'avance, l'accord pouvait être considéré comme conclu, et celui qui changerait d'avis devra dès lors accepter la malédiction enseignée au début du quatrième pérec. Et c'est aussi cela qui permettra de conclure cet accord. Nous pourrons donc considérer que l'acheteur a acquis dès maintenant la marchandise. Sa plus-value ne sera donc pas considérée comme un intérêt, parce que c'est en possession de l'acheteur que la valeur de la marchandise a augmenté, comme nous l'avons expliqué à plusieurs reprises tout au long de ce pérec. Mais si le potier n'a pas encore acquis de la poudre d'argile, l'eau samkha daté, Amimar ne pouvait pas faire confiance au potier parce que cette poudre était difficile à obtenir et elle était chère. L'accord ne pouvait donc pas être pris au sérieux. Donc même s'il payait sa marchandise à l'avance, l'accord ne pourrait pas être considéré comme conclu de manière à ce que celui qui change d'avis soit frappé par la malédiction enseignée au début du quatrième pérec. En conclusion, la discussion entre Rav et Shmuel porte sur l'opinion de Rabbi Meir. Donc selon Rav, il sera permis de conclure un achat d'ustensiles en argile uniquement lorsque le vendeur possède des ustensiles déjà formés et déjà séchés. Selon Shmuel, il sera permis de conclure cette vente dès que le potier possède de la pâte d'argile. Veuillez tourner la cassette. Rabbi aussi, quant à lui, ne peut être interprété que selon l'opinion de Shmuel, selon lequel il est permis de conclure une vente dès que le vendeur possède la matière première, de manière à ce que la fabrication de l'ustensile peut être faite entièrement par l'homme. Par conséquent, lorsque la poudre d'argile est courante, comme lorsqu'il s'agit de poudre noire dans les villages de Kfar Hanania, etc., mentionnés par la Breita, il sera permis de conclure cette vente, même lorsque le potier ne possède rien, parce que cette poudre est courante, et n'importe qui en possède, elle est donc facile à obtenir. Dans les endroits où cette poudre est difficile à obtenir, il sera permis de conclure cet accord, uniquement si le vendeur possède déjà la poudre d'argile. Mais une fois qu'il la possède, nous pouvons considérer que le vendeur possède suffisamment de matières premières pour pouvoir considérer qu'il possède le produit fini, il pourra donc conclure cet accord. Cependant, lorsqu'il s'agit d'argile blanche, Rabbi aussi sera d'accord avec Rabbi Meir selon l'interprétation de Shmuel, qu'il faudra que le vendeur possède la pâte d'argile. Et cela parce que celle-ci n'était obtenue que sous forme de pâte prête déjà à l'emploi. Pour expliquer ce passage difficile, nous nous sommes appuyés sur le Tosfot Arosh qui est ramené dans la Shetem Kobetzet et sur le commentaire du Maharam Shif. Voir aussi la Tshuva du Rivash, Siman Resha Indalet et le commentaire du Maharam Shif qui commente longuement ce passage. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Uposek imo al hazevel kol yomot hashana. Il est permis de conclure un achat d'engrais tout au long de l'année, même si le vendeur n'en possède pas, parce que cet engrais est facile à obtenir. Parce qu'il s'agit ici d'engrais à base de paille qu'on laissait dehors tout l'hiver et il se décomposait par la pluie et le piétinement des passants. Rabbi aussi, lui, interdit de conclure cette vente, à moins que le vendeur possède déjà de l'engrais entassé dans l'endroit prévu à cet effet. Et cela, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, parce que les Chachamim l'ont interdit de peur qu'il conclue un accord au début de l'hiver alors qu'il n'en possède pas du tout. La Mishnah continue et les Chachamim le permettent. Alors Gemara demande Chachamim Aynu Tanakama. L'opinion de Chachamim est la même que celle du premier auteur de la Mishnah. Donc pourquoi cette répétition? La Gemara répond Amar Rava, nous tournons la page Adaf Aindalet Amudbet. Yemot.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
La Gemara répond Amar Rava, nous tournons la page Adaf Aindalet Amudbet. Yemot Hagshamim Ika Benayu. La discussion entre le premier auteur de la Mishnah et les Chachamim, c'est pendant les jours de l'hiver. C'est-à-dire, le premier auteur de la Mishnah pense qu'il est permis de conclure un accord de vendre de l'engrais tout au long de l'année, parce que celui-ci est facile à obtenir. Selon les Chachamim, il est permis de conclure un accord de vendre de l'engrais uniquement en été, lorsqu'en général, le vendeur en possède, ou le cas échéant, n'importe qui d'autre en possède. Rabbi aussi, lui, est beaucoup plus strict, et il interdit de conclure un accord de vendre de l'engrais, à moins que le vendeur n'en possède déjà entassé dans l'endroit prévu à cet effet. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Uposek imo keshar agavoa » Lorsqu'une personne conclut un accord d'acheter de la marchandise en la payant à l'avance, il devra convenir avec lui de la lui fournir à son prix le plus avantageux, c'est-à-dire au prix où on le reçoit le plus de marchandises pour la même somme d'argent. Sans cela, si entre-temps la valeur de la marchandise a baissé, il devra quand même l'accepter au prix qui a été convenu. Rabbi Yehuda dit là-dessus que même si l'acheteur n'a pas convenu avec le vendeur de lui fournir la marchandise à son prix le plus avantageux, il pourra quand même changer d'avis si la valeur de la marchandise baisse et de lui dire donc ou bien rends-moi mon argent ou bien fournis-moi cette marchandise à son prix actuel qui est le plus bas. Et cela sans devoir accepter la malédiction enseignée au début du 4e pérec. Parce que lorsqu'un accord est convenu de livrer la marchandise beaucoup plus tard, nous estimons que l'intention de l'acheteur était d'acheter cette marchandise à son prix le plus avantageux. Il n'a donc pas besoin de le préciser. Alors l'Agmara raconte une histoire. Hahu gavra de ahiv zuze, il y a une personne qui a donné de l'argent à un commerçant, l'enedunia de Bechamua, pour que celui-ci lui fournisse les articles nécessaires pour former le trousseau de l'une des filles de son beau-père. Autrement dit, l'Agmara comprend ici que le beau-père de ce monsieur l'avait nommé émissaire pour convenir avec le commerçant l'achat du nécessaire d'un trousseau. Le sof zal nidunia, à la fin, la valeur des articles du trousseau a baissé. L'émissaire qui avait conclu l'achat de ce trousseau avec le commerçant voulait donc l'obtenir à son prix le plus avantageux. À tous les kamehs des Rav Papa, ils se sont présentés devant Rav Papa pour trancher ce litige. À Marley, Rav Papa a dit à ce monsieur, « Ipaskatimo keshar gavoa, si tu avais convenu avec le commerçant qu'il te fournisse ce trousseau à son prix le plus avantageux, shakil keashta, tu pourras le recevoir à son prix actuel, donc à son prix le plus bas. Ve'ilo, mais si tu n'avais pas convenu avec lui de te fournir ce trousseau à son prix le plus avantageux, shakil meikara, tu devras impérativement l'accepter au prix convenu au départ, même si la valeur de ce trousseau a baissé. Amroulé, Rabbanan le Rav Papa, les Chachamim ont posé la question suivante à Rav Papa, Ve'ilo pasak, et s'il n'avait pas convenu avec le commerçant de lui fournir ce trousseau à son prix le plus avantageux, shakil kemeikara, a-t-il l'obligation de l'accepter à son prix fixé au départ? Ma'ot ninu, finalement, il a uniquement donné de l'argent pour payer cette marchandise à l'avance, ou ma'ot lokanu, et nous avons appris dans le 4e pérec que le fait de payer la marchandise à l'avance n'acquiert pas la marchandise. L'acheteur, finalement, a le droit de changer d'avis. À Marlehu, Rav Papa leur a répondu, « Ananami, moi aussi, lorsque j'ai dit cela à cette personne, les kiboulé allé mishepara kamina. Je le dis simplement qu'ils ne pourront pas changer d'avis sans accepter la malédiction enseignée au début du 4e pérec. C'est-à-dire, « Ipasa keshara gavoa » s'ils avaient convenu que le trousseau lui soit fourni à son prix le plus avantageux et le vendeur ne le veut pas, « Mocher kaadarbe » finalement, c'est le vendeur qui change d'avis. Mekabel aleh mocher mishepara. C'est le vendeur donc qui devra accepter la malédiction enseignée au début du 4e pérec. Ilo pasak, mais s'il n'avait pas convenu que le trousseau soit fourni à son prix le plus avantageux, finalement donc c'est l'acheteur ou l'émissaire qui s'était engagé à acheter cette marchandise à son prix d'origine. S'il ne le veut pas, loker kaadarbe, c'est l'acheteur qui change d'avis. Mekabel aleh loker mishepara, c'est donc l'acheteur ou l'émissaire qui devra accepter cette malédiction enseignée au début du 4e pérec. Amarle, Ravina le Rav Papa. Ravina a posé à Rav Papa la question suivante. Voici que dans notre Mishnah, nous avons vu une discussion entre le premier auteur de la Mishnah et Rabbi Yehuda. Selon le premier auteur de la Mishnah, il fallait que l'acheteur convienne avec le vendeur que la marchandise lui serait fournie à son prix le plus avantageux. Sans cela, il doit l'accepter à son prix d'origine. Selon l'opinion de Rabbi Yehuda, l'acheteur recevra la marchandise à son prix le plus avantageux, même sans le convenir. D'autre part, nous avons vu au début du 4e pérec une discussion entre les Chachamim et Rabbi Shimon. Selon les Chachamim, le fait de payer la marchandise à l'avance n'acquiert pas la marchandise. Il est donc possible de changer d'avis en acceptant la malédiction enseignée au début de ce 4e pérec. Par contre, selon l'opinion de Rabbi Shimon, lorsque l'acheteur a payé sa marchandise à l'avance, nous considérons qu'il l'a acquise. Il n'a plus de possibilité de changer d'avis. Ce n'est que le vendeur qui a la possibilité de changer d'avis, pour les raisons que nous avons expliquées dans le 4e pérec. Alors la question se pose au Mimai de Rabbananhi, qui nous dit que l'enseignement du premier auteur de la Mishnah a été enseigné par les Chachamim des Pligale de Rabbi Shimon, qui sont en discussion avec l'opinion de Rabbi Shimon de Amré. Et ils disent donc, Ma'ot Lokanu, le fait de payer la marchandise à l'avance ne l'acquiert pas. Va Filouachi. Et même si c'est ainsi, l'opinion de Chachamim est, Ipasak Keshar Agavoa, Si l'acheteur a convenu avec le vendeur de lui fournir la marchandise à son prix le plus avantageux, shakil kede ashta, il la recevra à son prix actuel, qui est le prix le plus bas. Il opasak, mais s'il n'avait pas convenu cela avec le vendeur, shakil kede meikara, il recevra la marchandise à son prix d'origine. Dilma Rabbi Shimoni, peut-être que l'enseignement du premier auteur de la Mishnah a été enseigné par Rabbi Shimon de Amar qui dit Maot Konot, que lorsque l'acheteur paye sa marchandise à l'avance, nous considérons qu'il l'a acquise. Par conséquent, Vechi Pasak Keshar Agavoa, c'est uniquement lorsque l'acheteur a convenu avec le vendeur de lui fournir la marchandise à son prix le plus avantageux, Shakil qui acheta, qu'il la reçoit à son prix actuel qui est le prix le plus bas. Il opasak, mais s'il n'avait pas convenu cela avec le vendeur, Shakil Kemeikara, il devra impérativement l'accepter à son prix d'origine. Parce qu'avec l'argent qu'il a payé à l'avance, il a acquis la marchandise. Il lui est donc impossible de changer d'avis. Aval les Rabbanan, mais selon l'opinion des Chachamim, qui permettent de changer d'avis, ben pasak, ben lo pasak, soit s'il avait convenu avec le vendeur de lui fournir la marchandise à son prix le plus avantageux, soit s'il ne l'avait pas convenu avec le vendeur, shakil ki achta, en toutes circonstances, il pourra recevoir la marchandise à son prix actuel, donc qui est le plus bas. Et cela parce que nous pouvons estimer que puisque dès le départ, la marchandise était destinée à être fournie beaucoup plus tard, dedate deinish atarazila, que l'intention de l'acheteur, lorsqu'il a conclu cet accord, était d'acheter cette marchandise à son prix le plus avantageux. En interprétant la Mishnah ainsi, on gagnerait qu'il n'y a que deux avis concernant celui qui paye sa marchandise à l'avance. Il y a l'opinion de Rabbi Shimon, selon lequel l'acheteur acquiert sa marchandise lorsqu'il la paye à l'avance. Par conséquent, ce n'est que lorsqu'il convient avec le vendeur que cette marchandise lui soit fournie à son prix le plus avantageux, qu'il pourra la recevoir à son prix actuel qui est le plus bas. Donc finalement, le premier auteur de la Mishnah suit l'opinion de Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda suit l'opinion de Chachamim, selon lequel le fait de payer la marchandise à l'avance ne l'acquiert pas. Et c'est pour cela donc que lorsque la valeur de la marchandise baisse, même sans rien convenir avec le vendeur, il aura le droit de changer d'avis et d'exiger que la marchandise lui soit livrée à son prix le plus avantageux. Alors puisqu'il est ainsi, c'est plutôt l'opinion de Rabbi Yehuda que nous devrions suivre et non pas l'opinion du premier auteur de la Mishnah. Amarle, Rav Papa a répondu à Ravina, Emur d'Amar Rabbi Shimon Bechatara. Il est vrai que nous avons entendu l'opinion de Rabbi Shimon lorsqu'il y a un seul prix, c'est-à-dire soit lorsque les prix n'ont pas changé, soit s'il n'était pas destiné à changer parce que la marchandise devait être livrée immédiatement et pour une raison ou une autre, sa livraison a été différée et entre-temps les prix ont changé. C'est dans ce cas que Rabbi Shimon dit que lorsque l'acheteur a payé sa marchandise à l'avance, il n'a plus la possibilité de changer d'avis. Betre tare mi'amar, dirait-il la même chose lorsqu'il y a deux prix, c'est-à-dire lorsque dès le départ, la marchandise était destinée à être livrée beaucoup plus tard, il y avait donc la possibilité que les prix changent. Est-ce que dans ce cas aussi nous dirons que dès que l'acheteur a payé sa marchandise à l'avance, il n'a plus la possibilité de changer d'avis, même s'il veut accepter la malédiction enseignée au début du 4e Perek, parce que si tu ne dis pas ainsi, et tu voudrais dire donc que selon l'opinion de Rabbi Shimon, même lorsque dès le départ, la marchandise devait être livrée beaucoup plus tard, il y avait donc la possibilité que les prix changent, quand même, l'acheteur ne peut plus changer d'avis lorsqu'il a payé sa marchandise à l'avance, mi shepara belokeach le Rabbi Shimon netle, n'y a-t-il pas de possibilité selon l'opinion de Rabbi Shimon que l'acheteur change d'avis en acceptant la malédiction enseignée au début du 4e Perek, Bechit et Marinami. Et si tu veux me dire qu'effectivement, selon l'opinion de Rabbi Shimon, il n'y a aucune possibilité que l'acheteur puisse changer d'avis en acceptant la malédiction enseignée au début du 4e Perek, Vatania, pourtant, il a été enseigné dans une Braïta qui a été citée plus haut d'Af Memchet Amoud Aleph, dont l'auteur est Rabbi Shimon. Mikol Makom Kachalacha, en toutes circonstances, l'Alacha est ainsi. Que lorsque l'acheteur a payé sa marchandise à l'avance, il ne l'a pas acquise, avalamru chachamim. Cependant, les chachamim ont dit là-dessus, mishepara, celui qui a puni la génération du déluge, etc., punira celui qui ne tient pas parole. Alors la question se pose, mai mikol makom, que veulent dire ces termes en toutes circonstances? Lav, n'est-ce pas que c'est cela que la Breta veut nous enseigner? De l'oshana lokeach, ve l'oshana mocher, il n'y a pas de différence, que ce soit l'acheteur, que ce soit le vendeur. Si l'un des deux change d'avis, mais Kabel Aleh Mishepara, il devra accepter la malédiction enseignée dans cette Braïta. Finalement donc, nous voyons dans cette Braïta que ce n'est pas seulement vis-à-vis du vendeur que l'acheteur n'a pas acquis sa marchandise s'il l'a payé à l'avance, mais même vis-à-vis de lui-même. Contrairement donc à ce qu'il a enseigné dans la Mishnah au début du 4e Pérec, que ce n'est que le vendeur qui a la possibilité de changer d'avis en acceptant la malédiction enseignée dans la Mishnah. Et là, forcément donc, nous devons dire qu'Ikama Rabbi Shimon, quand est-ce que Rabbi Shimon dit que l'acheteur n'a pas de possibilité de changer d'avis, Bechattara, ce n'est que lorsqu'il y a un seul cours, c'est-à-dire, ou bien dans le cas où les prix n'ont pas changé et l'acheteur veut changer d'avis pour une autre raison, ou bien lorsque la marchandise était destinée à être livrée immédiatement et sa livraison a été différée pour une raison ou une autre et les prix ont changé entre-temps. Bitretare. Mais lorsqu'il y a deux prix, c'est-à-dire lorsque dès le départ la marchandise devait être livrée beaucoup plus tard, il y avait donc la possibilité que le prix change entre-temps, Lohamar, dans ce cas Rabbi Shimon n'a pas parlé, et selon lui, même l'acheteur pourrait théoriquement changer d'avis en acceptant la malédiction enseignée au début du 4e Pérec. Finalement donc, il est impossible de comprendre que la raison pour laquelle le premier auteur de la Mishnah nous dit que l'acheteur doit impérativement convenir avec le vendeur de lui fournir la marchandise à son prix le plus bas, parce que sans cela, il lui est impossible de changer d'avis, parce que comme nous l'avons expliqué, même Rabbi Shimon serait d'accord que dans le cas où la marchandise devait être livrée beaucoup plus tard, l'acheteur a la possibilité de changer d'avis en acceptant la malédiction enseignée au début du 4e Pérec. Forcément donc, cette discussion entre le premier auteur de la Mishnah et Rabbi Yehuda n'a rien à voir avec la discussion entre Rabbi Shimon et les Chachamim. Et donc, selon le premier auteur de la Mishnah, l'acheteur doit convenir avec le vendeur de lui fournir la marchandise à son prix le plus avantageux. Sans cela, l'acheteur ne pourra pas changer d'avis sans accepter la malédiction enseignée au début du 4e Pérec, et cela, soit selon l'avis des Chachamim, soit selon l'avis de Rabbi Shimon. Alors que l'opinion de Rabbi Yehuda dans notre Mishnah est que même lorsque l'acheteur ne convient rien avec le vendeur, si la valeur de la marchandise baisse, l'acheteur pourra changer d'avis sans recevoir de malédiction. Finalement donc, si c'est ainsi, nous devrons suivre l'opinion du premier auteur de la Mishnah. Et c'est pour cela donc que Rav Papa avait dit à l'émissaire que s'il n'avait rien convenu avec le commerçant, il devra accepter ce trousseau à son prix d'origine. Amarle, Ravacha Berede Rava, le Ravashi. Ravacha, le fils de Rava, a posé la question suivante à Ravashi. Comment se fait-il que si l'émissaire n'a rien convenu avec le commerçant, qu'il devra accepter la malédiction s'il veut changer d'avis? Veti Pukled, Shliar Shaviyem Ikara. Il devrait être de toute façon exempté de cette malédiction, parce que dès le départ, il n'agissait simplement en tant qu'émissaire. Finalement, l'envoyeur peut dire à l'émissaire, tu as mal rempli ta mission parce que tu n'as rien convenu avec le commerçant. L'ordre de mission est donc annulé rétroactivement. Puisqu'il est ainsi, l'accord de vente est aussi annulé rétroactivement. Il n'y a donc pas de raison que cet émissaire reçoive de malédiction. Amarle, Ravashi a répondu à Ravacha, le fils de Rava, Betagra. Dans l'histoire que nous avons mentionnée précédemment, il s'agissait d'un commerçant, Dezavin ou Masbin, qui achetait ce trousseau pour le revendre à son beau-père. Autrement dit, il ne s'agissait pas d'un cas où le beau-père avait nommé son gendre en tant qu'émissaire pour acheter le trousseau pour sa fille, mais plutôt il s'agissait d'un cas où il avait conclu un accord avec son gendre de lui fournir le trousseau à un certain prix, et à son tour le gendre a conclu un accord avec un commerçant pour l'achat de ce trousseau. Il devait donc gagner un pourcentage dans l'affaire. Alors, puisqu'il n'a pas agi en tant qu'émissaire lorsqu'il a conclu cet accord avec le commerçant, c'est pour cela que Rav Papa lui a dit que s'il n'avait rien convenu avec le commerçant, donc de lui fournir ce trousseau à son prix le plus avantageux, il n'aurait pas le droit de changer d'avis sans accepter de malédiction. Nouvelle Mishnah. Malvé Adam et Tarissav. Une personne a le droit de prêter à ses métayers chitim du blé, bechitim, pour qu'ils lui rendent du blé de la nouvelle récolte, les zera, lorsqu'il leur prête ce blé pour le semer. La Gemara expliquera pourquoi. Avalo lechol, mais il sera interdit de prêter du blé pour la consommation personnelle du métayer. Parce qu'il y a lieu de craindre que la valeur du blé augmente, la plus-value de ce blé sera considérée comme un intérêt. Alors la raison pour laquelle la Mishnah a besoin de nous enseigner cela, Shaya Rabban Gamliel, Malve et Arisav Chitin Bechitin Lezera, Rabban Gamliel avait l'habitude de prêter à ses métayers du blé pour les semer, et il s'engageait de lui rembourser en blé, de manière à ce que Beyoker Beuzlu, si au départ le blé valait cher et sa valeur abaissait au Bezol Veoukrou, ou bien si au départ le blé n'était pas cher et sa valeur a augmenté, Notel Mehen Kesha Arazol, il se faisait rembourser en blé, toujours selon sa valeur la plus basse. C'est-à-dire, si la valeur du blé avait augmenté, il leur reprenait une quantité de blé équivalente à la valeur du blé qu'il avait prêté à l'origine, Et si la valeur du blé avait baissé, ils leur reprenaient la même quantité de blé qu'ils leur avaient prêté. Alors la Mishnah nous enseigne que ce n'est pas parce que l'alakha est ainsi, parce que comme la Mishnah nous l'enseigne, c'est permis. Et là, mais la raison pour laquelle Rabban Gamliel agissait ainsi, c'est parce qu'il voulait être plus strict avec lui-même. Il voulait s'éloigner de toute possibilité d'intérêt. En l'agmar dit là-dessus, Tanu Rabbanan, nos chachamim ont enseigné dans une braïta, Malve Adam et Arisav Chitim Bechitim Lezera, un homme a le droit de prêter du blé à son métayer pour le semer, lorsqu'il s'engage de le rembourser en blé de la nouvelle récolte. Bamed Dvarim Amurim, quand est-ce que ces choses sont dites? Chez Loyarad, c'est uniquement dans le cas où cet accord est conclu, avant que le métayer ne descende dans le champ pour commencer à le travailler. Nous considérons donc cela comme un accord particulier, où le propriétaire reçoit la quantité de blé nécessaire pour les semailles, en plus de la part qu'il devait recevoir habituellement. À Valyarad, mais si cet accord est conclu après que le métayer soit descendu dans le champ pour commencer à le travailler, Assour, c'est interdit. Parce que dans ce cas, il est impossible de considérer cela comme un nouvel accord. Il s'agit donc d'un véritable prêt en blé. Et comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, c'est interdit parce qu'il y a lieu de craindre que la valeur du blé augmente et la plus-value sera donc considérée comme un intérêt. Alors la Gemara demande, Maishana Tana Didan de Lokamaflig Ben Yarad ou Ben Eliarad, pourquoi est-ce que l'auteur de notre Mishnah ne fait pas cette différence entre le cas où le métayer est descendu dans le champ pour commencer à le travailler et le cas où il n'est pas encore descendu dans le champ pour commencer à le travailler? Ou Maishana Tana Berad, Kamaflig Ben Yarad ou Ben Loyarad? Et pourquoi l'auteur de la Braïta fait cette différence entre le cas où le métayer est descendu dans le champ pour commencer à le travailler et le cas où il n'est pas encore descendu dans le champ pour commencer à le travailler? Alors l'Agmara répond, Amarava, Ravidi Asberal Niali. C'est Ravidi qui me l'a expliqué. Beatra de Tanadidan, dans l'endroit où habitait l'auteur de notre Mishnah, l'usage était que Arisa Yahiv Bizra, c'était le métayer qui donnait les semences. Par conséquent, Ben Yarad ou Ben Loyarad, soit s'il est descendu pour commencer à travailler le champ, soit s'il n'est pas encore descendu pour commencer à travailler le champ, Kama de Loyahiv Bizra, tant qu'il n'investit pas les semences, nous considérons qu'il ne remplit pas sa part de l'engagement. Par conséquent, Matsi Messalikle, le propriétaire peut lui retirer le champ. Ainsi donc, lorsqu'il lui prête le blé pour les semences, nous considérons cela comme un nouvel accord, Vichikanachit, et lorsque ce métayer redescend à nouveau pour travailler ce champ, le bâtir Mehari Kanachit, il est descendu dans ce champ, donc il a conclu cet accord, de manière à recevoir une part plus petite dans la production de ce champ. En effet, dans ce nouvel accord, c'est le propriétaire qui reçoit la quantité nécessaire pour les semences, en plus de la part qu'il devait recevoir à l'origine. Beatra de Tanabara, par contre, dans l'endroit où habitait l'auteur de la Braïta, l'usage était que Mare Ara Yahiv Bizra, c'est le propriétaire du terrain qui donnait les semences. Mais le propriétaire voulait conclure un accord particulier avec ce métayer, par exemple parce que son champ était de meilleure qualité. Alors, I Loyarad, si le métayer n'était pas encore descendu dans ce champ pour commencer à le travailler, donc finalement le métayer n'a pas encore pris possession de ce champ, de Matsim et Salikle, le propriétaire peut lui retirer ce champ et annuler l'accord. Il a donc aussi la possibilité de conclure un accord particulier et donc d'imposer la fourniture des semences au métayer, puis de lui prêter la quantité nécessaire pour les semences. Parce que nous considérons cela comme un accord particulier qui kanachit le batir meachi kanachit. Parce que nous pourrons dire que lorsque ce métayer est descendu dans ce champ pour en prendre possession, il l'a fait avec l'intention de recevoir une part plus petite dans la production de ce champ. En d'autres termes, il s'agit d'un accord particulier où le propriétaire reçoit de la production du champ la quantité nécessaire pour les semences en plus de sa part qu'il devait recevoir à l'origine. Par contre, Iarad, si le propriétaire veut changer les conditions de cet accord après que le métayer soit descendu dans ce champ pour le travailler, donc après qu'il ait pris possession de ce champ, de l'Omatsim et Salikle, et le propriétaire ne peut donc plus lui retirer ce champ en annulant cet accord. Donc si le propriétaire veut changer les conditions de cet accord en imposant les semences au métayer, même s'il a la possibilité de le faire en lui proposant de l'argent ou tout autre avantage, Assour, il lui sera interdit de lui prêter le blé pour ses semences. Parce que dans ce cas, nous considérons cela comme un véritable prêt, puisque l'accord ne peut plus être annulé. Et comme nous l'avons expliqué plus haut, il y a lieu de craindre que la valeur du blé augmente et la plus-value de ce blé sera considérée comme un intérêt. Cependant, comme nous l'avons vu plus haut, Daf Ayin Gimel Amud Alef, il y aura quand même une possibilité pour le propriétaire de changer cet accord c'est en reprenant possession du terrain, en participant à la bourre. Ainsi, nous pourrons considérer qu'un nouvel accord a été conclu. Comme nous l'avons expliqué, nous avons fini ici le shiur de Babamtia Daf Ein Dalet. Nous commençons le shiur de Babamtia Daf Ein He. Nous commençons Daf Ein Dalet Amud Bet en bas de la page. Tanu Rabbanan, nos chachamim ont enseigné dans une braïta. Omer Adam Lachavero, un homme peut dire à son prochain, nous passons à Daf Ein He Amud Alef, Halveni.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.